Ainsi en va-t-il de la grâce, frères et sœurs. Elle s'immisce avec délicatesse dans notre histoire pour donner de l'ampleur à notre personnalité, pour donner de l'ampleur à notre vie et faire en sorte qu'elle devienne une existence, qu'elle soit transcendée, infiniment plus large que ce que notre corps, notre savoir personnel nous permettrait d'accomplir. Oui, frères et sœurs, en vous disant que la grâce et la paix nous sont données de la part de l'Éternel, notre Dieu, j'ajoute que cette grâce et cette paix nous sont données à la manière de ce que le Christ Jésus a vécu, ce qu'il a accompli, pour que nous soyons nous-mêmes stimulés par cette existence, invités à rendre notre vie fidèle à l'Évangile. Alors, je vous propose de prendre votre recueil de chants au numéro 405. Nous allons chanter cette première strophe et, puisque quelques-uns souhaitent prendre la position du ressuscité, levons-nous pour chanter la première strophe du cantique 405. Louons Dieu avec les mots d'un psaume. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles et l'assemblée des croyants célèbre ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors heureux, heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. À travers les mots du psaume 42 et de sa mélodie, nous pourrons retrouver aussi cette dynamique du carême qui consiste à avoir ce regard un peu introspectif, non pas pour s'abîmer dans la prière de repentance, mais pour découvrir les éléments de grâce qui rendront notre vie infiniment plus réjouissante. Psaume 42, les strophes 1, 2 et 4.
Thank you.
Prenons place. Le temps de carême est à la fois ce temps de la relecture, de l'introspection, le temps de la prière qui nous permet de nous placer en toute vérité devant Dieu. Et c'est aussi un temps pour faire quelque chose de ce qui nous arrive. Essayer de prendre spirituellement la mesure de l'actualité et de pouvoir non pas nous réfugier dans une sorte d'arche de Noé, dans un cocon bien moelleux que serait l'Église, mais pouvoir retrouver la force spirituelle pour faire face aux défis de notre temps. Le théologien n'est pas là pour régler les affaires de la société, mais pour offrir ce temps nécessaire pour pouvoir rester dans l'actualité, personnellement, individuellement, sans renoncement et sans résignation. Et il est bon parfois de prendre le temps du silence intérieur pour retrouver ce que la spiritualité nous permet de dégager comme sens de la responsabilité. Alors nous aurons une prière de repentance qui ne sera pas faite de beaucoup de mots, mais nous prendrons le temps de la prière intérieure. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons en toute simplicité prendre le temps du silence intérieur pour reconnaître ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Ce que nous aurions dû dire et que nous n'avons pas dit. Ce que nous aurions dû penser et que nous n'avons pas pensé. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Au cantique 407, nous chanterons la première strophe du cantique 407. Restons assis. Le temps de carême n'est certainement pas un temps pour être accablé, certainement faire preuve d'humilité, mais sans que cela confine à l'humiliation. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes eux-mêmes, lorsqu'ils regardaient le peuple d'Israël les yeux dans les yeux, lorsqu'ils étaient face à face avec le pouvoir royal, parfois injuste, inique, étaient aussi porteurs de paroles de grâce. Il ne s'agissait pas de déconstruire, de tout anéantir. Il s'agissait de réformer. À la fois déconstruire ce qui n'était pas satisfaisant et offrir un avenir, un horizon vers lequel se tendre individuellement et collectivement. C'est la raison pour laquelle, dans le livre du prophète Ésaïe, par-delà tous les oracles prophétiques qui adressent quelques corrections fraternelles au peuple, il y a aussi cette parole qui, pour nous, est une parole de grâce. Le prophète qui dit « Quand les montagnes s'effondreraient, oracle de l'Éternel, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point. et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Voici, je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Voilà, frères et sœurs, une parole de grâce que nous pouvons accueillir et que nous pouvons inscrire au plus secret de nous-mêmes. Faisons-le par le chant de la quatrième strophe du cantique 405. Levons-nous pour chanter Dieu au cantique 405, quatrième strophe. Et toujours dans le livre du prophète Ésaïe, quelques paroles qui disent un idéal de justice, qui disent une espérance de Dieu à notre égard. Voici cet oracle. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs. Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans-abri. Couvre celui qui a froid. Ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Tout pourrait se résumer à cette dernière phrase. Ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Ne fais pas comme ce sacrificateur, comme ce prêtre qui, se rendant à Jérusalem, se détourne de son frère laissé à moitié mort. Frères et sœurs, chantons au cantique 403, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 403. en place. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute de l'Évangile que des auteurs ont essayé de nous rendre disponible. Amen. Frères et sœurs, j'ai retenu deux versets pour notre méditation ce matin. Tout d'abord, un verset dans l'épisode de l'Évangile de Jean où Lazare meurt, est enterré dans un mémorial et Jésus va être interpellé pour réagir à cette situation. Et vous savez que Jésus dira à Lazare « Sors » et Lazare sortira, puis il sera délié. C'est un épisode tout à fait intéressant, mais je n'avais pas de nouvelles idées à vous proposer ce matin. Tout est déjà dans un de mes livres, alors je vous renverrai à l'un de ces livres sur la liberté. Comme ça vous fera une après-midi très James Woody avec la conférence de 16h sur France Culture. J'ai surtout retenu ce verset 41 de l'Évangile de Jean au chapitre 11. Ça nous donnera l'occasion de réfléchir à la question de la prière. Jean chapitre 11, verset 41, c'est juste avant que Jésus prononce ses paroles en direction de Lazare. Il dit ceci. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et c'est seulement après que Jésus prononcera les paroles destinées à délier Lazare. Et en tension avec ce verset, dans l'Évangile de Marc au chapitre 11, je vous lis le verset 24. Nous sommes au moment où Jésus est entré à Jérusalem, un peu en avance sur Rameau. Il parle du temple, de tout ce qui s'y vit. Et au verset 24, il dit ceci, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Voilà, frères et sœurs, deux versets pour notre méditation et pour le moment, je vous invite à chanter en restant assis la troisième strophe du cantique 405. Chers frères et sœurs, nous avons souvent l'habitude de dire que la prière est un dialogue avec Dieu. Et bien souvent, je constate que ce dialogue se transforme en un monologue. Et que bien souvent, la prière consiste en une litanie de paroles que nous adressons à Dieu pour lui dire ce que nous pensons, ce que nous craignons, ce que nous voulons. Et de ce point de vue, il est vrai que bien souvent, nos cultes sont quand même passablement bavards. Vous aurez remarqué que j'ai essayé d'être beaucoup moins bavard que d'habitude pour le début du culte et j'ai même rédigé un texte de prédication plus court que d'habitude. Nos cultes sont quand même assez bavards et ils donnent parfois l'impression que la prière consiste surtout à parler à Dieu. Et à la limite, ils pourraient même laisser entendre qu'être bon chrétien, c'est l'art de tout dire à Dieu, de ne rien omettre, de lui dire nos joies, c'est la louange, nos erreurs, la repentance, nos pensées pendant l'intercession. Et à quel moment écoutons-nous Dieu dans cette histoire? Quand on se met à l'école de Jésus et qu'on s'intéresse à la question de la prière, on découvre une autre compréhension de la prière. Et je pense que se mettre à l'école de Jésus, c'est limiter un peu notre temps de parole dans le temps de la prière. C'est découvrir que la prière, c'est plutôt écouter Dieu et rendre grâce. Rien de bien original, me direz-vous, mais la question n'est pas tant d'être original que de voir juste. Prier, c'est écouter Dieu. Voilà mon premier point. Force est de constater que nous avons quand même toutes les peines du monde à écouter Dieu. Et la faute n'est pas forcément de notre côté. C'est que, d'un point de vue très pratique, écouter Dieu, c'est quand même un peu plus compliqué que d'écouter le pasteur ou d'écouter son voisin. Les textes bibliques, d'ailleurs, les prières, ce psaume que nous avons chanté tout à l'heure, le psaume 42, disent à quel point entendre Dieu ne va pas de soi. Et lorsque viendra le temps du Vendredi Saint, nous nous souviendrons de cette parole de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est une citation du psaume 22, dans lequel le psalmiste dit qu'il prie, mais qu'il n'entend jamais la parole de Dieu, au début du psaume, après ça s'arrange. Écouter Dieu est tellement difficile, à vrai dire, que nous avons parfois tendance à déplacer le centre de gravité de la prière en le plaçant de notre côté et à parler, parce que la nature a horreur du vide et nous avons horreur du silence. Lorsqu'il y a un repas où tout se passe bien et que d'un seul coup, plus personne ne parle, on se sent obligé de dire « un ange passe ». On ne peut pas tout simplement profiter du silence, non? Ou peut-être se dire qu'il y a l'occasion là d'entendre quelque chose qui était inaudible à cause de toutes ces paroles qui recouvrent le sens de la vie. Dans les différents évangiles, il est question de demande. Et ici, vous avez entendu que Jésus dit « quand vous demanderez ». Demandez tout ce que nous souhaitons. C'est quand même la promesse qui nous est faite. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et donc on peut se dire, la prière c'est quand même fait pour dire ce qu'on veut et pour causer. Et au fond, on n'a peut-être pas vraiment besoin que Dieu nous réponde. Ce qu'on veut, c'est que Dieu nous exauce, qu'il fasse ce qu'on lui demande. Il y a ce vague souvenir que nous avons cette promesse de Jésus répétée dans différents évangiles, que tout ce que nous demanderons nous sera accordé, et qui fait penser que la prière, c'est l'art de demander à Dieu, c'est l'art de l'interroger, de le solliciter et de lui présenter toutes nos requêtes personnelles. Mais l'évangéliste Marc nous aide, je pense, à mieux comprendre la logique de Jésus et à corriger notre spiritualité. Reprenons le verset qui est un verset clé, en l'écoutant au plus près du texte grec. L'évangéliste écrit « Tout ce que vous priez et demandez, croyez que vous l'avez reçu et cela sera pour vous. » Déjà, il y a une petite différence avec nos traductions habituelles. Ce n'est pas tout ce que vous demanderez en priant, c'est tout ce que vous priez et tout ce que vous demandez, en quelque sorte. Ce qui distingue la prière de la demande, au passage. Bien entendu, il est question de demande dans la Bible. Jésus, selon les évangiles de Matthieu et de Jean, dit à ses disciples que ce qu'ils demanderont, ils l'auront. C'est dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais nous comprenons que pour Jésus, prier et demander sont deux choses différentes. Donc, il ne s'agira pas pour moi de disqualifier les demandes que nous pouvons faire, mais de distinguer prière et demande. À tout le moins, ne limitons pas la prière à nos catalogues de souhaits, à nos listes de demandes plus ou moins généreuses. Retrouvons le sens de la prière pour que notre vie spirituelle ne soit pas seulement un exercice qui consiste à en vouloir toujours plus. Le temps de carême est peut-être un temps pour une forme de désinflation, peut-être de décroissance, un terme un petit peu délicat à manier. En tous les cas, la kénose, ça c'est un terme de Paul, pour dire se vider de soi-même, se vider de toutes ces demandes qui nous encombrent et qui ne remplissent pas notre vie de ce qu'il y a de plus essentiel. Retournons à notre verset de Marc. « Tout ce que vous priez, croyez que vous le recevez. » À première lecture, il y a un peu de la méthode Coué là-dedans. On s'auto-persuade que ça va bien se passer. Je crois que le christianisme n'est pas une méthode Coué. Il est un peu difficile de comprendre ce que cela signifie parce que nous avons un peu du mal à comprendre ce que signifie le verbe « croire », en fait. Souvent, on emploie le verbe « croire », même quand on est croyant, d'une manière pas très évangélique. Croire, c'est plutôt « on n'est pas trop sûr », c'est plutôt l'hésitation, c'est plutôt « oh, ça va probablement se passer comme ça ». Mais en fait, le verbe pisteo en grec dit bien autre chose. Le verbe pisteo, qui désigne la confiance et donc la foi, la pistis, la foi, c'est le fait d'adhérer, mais pas avec de l'hésitation, pas en traînant les pieds. C'est au contraire une adhésion forte, un attachement fort. C'est une conviction en fait. Et cela est la même chose en hébreu, avec la emouna, qui donne le mot qu'on emploie souvent dans le culte « Amen ». Je vous le rappelle, « Amen », ce n'est pas une histoire d'hésitation, ce n'est pas une histoire « globalement, on peut faire confiance, ça va bien se passer, après la pluie, le beau temps ». « Amen », c'est le cri du chamelier, qui, après avoir fait des nœuds serrés entre les différents liens des chameaux ou dromadaires qui vont constituer la caravane, crie « Amen » parce que les nœuds sont suffisamment solides pour que la caravane s'en aille et que la traversée du désert se fasse sans crainte de perdre un chameau en route. Croire, ce n'est pas un savoir au rabais. La confiance, la foi dans la Bible, c'est solide. C'est un point d'appui, c'est une adhésion ferme. Cela signifie que lorsque Jésus nous dit que ce que nous prions et ce que nous demandons, nous sommes appelés à croire que nous l'avons reçu. Cela signifie que Jésus dit que ce que nous prions, c'est ce à quoi nous sommes attachés. C'est ce à quoi nous pouvons adhérer. C'est ce que nous avons reçu. La foi, c'est le fait d'adhérer à ce que nous avons reçu et la prière consiste à le reconnaître. C'est une prise de conscience. La prière, c'est pour prendre conscience de ce qui jusque-là n'était qu'implicite. C'est le fait d'exprimer ce qui jusque-là était enfoui en nous. Et c'est la raison pour laquelle il est utile de lire le livre des psaumes pour comprendre à quel point la prière est un temps de liberté, pour pouvoir exprimer en toute liberté, sans censure de notre part, ce qu'il y a en nous, ce qui nous travaille, ce qui mérite ensuite d'être mis au grand jour pour constituer l'horizon vers lequel nous allons nous rendre. Ainsi, la prière, c'est donner de la consistance à ce qui compte pour nous. La prière, c'est ce qui permet de donner de la chair, de la substance. La prière, c'est ce qui permet finalement d'incarner ce que nous avons reçu de Dieu et dont nous n'avions pas encore clairement conscience. La prière, c'est ce travail intérieur, ce travail intellectuel aussi, qui nous permet de réaliser, d'ouvrir les yeux sur ce que nous recevons de Dieu et d'en vivre. C'est la raison pour laquelle le pasteur Wilfred Monod, quand il parlera de la prière, dira que la prière exauce Dieu. Et cela change complètement la perspective. Souvent, malencontreusement, on pense que la prière, c'est demander à Dieu, ce qui sous-entend qu'on dit à Dieu ce qu'il devrait faire comme s'il n'était pas suffisamment futé pour le savoir. Au passage, ça suppose que Dieu serait une sorte de personnage qui aurait besoin de nos recommandations et de nos indications. Ici, la prière, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. C'est se mettre à l'écoute de notre vie, non pas telle que nous l'observons de manière un peu superficielle, mais notre vie telle qu'elle pourrait s'affirmer, forte de l'Évangile. Se mettre à l'écoute de Dieu au sens d'accueillir ce que Dieu nous prodigue. La prière comme le fait d'ouvrir la porte à l'Évangile, c'est-à-dire à cette vie marquée par tout ce qui caractérise l'Évangile, que ce soit la grâce, que ce soit le pardon, que ce soit la fraternité, que ce soit le sens de la justice, de manière inconditionnée. Et c'est la raison pour laquelle j'en viens à ce deuxième point qui explicite finalement cette écoute de Dieu, la prière comme acte de reconnaissance. Et l'action de grâce, c'est ça, c'est la reconnaissance. Durant l'épisode où il va sortir Lazare de la situation invivable dans laquelle il était enfermé, Jésus prie en disant « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et au fond, il a exaucé quoi, Dieu, jusque-là, dans cet épisode, qui est avant le moment où, on va dire, Lazare sort. Littéralement, en grec, Jésus dit qu'il rend grâce à Dieu. C'est le verbe « eucharisteo », comme l'Eucharistie. Jésus rend grâce à Dieu alors que Dieu n'a encore rien fait pour lui dans cet épisode. C'est quand même assez étrange. Jésus n'a non plus rien demandé à Dieu dans cet épisode. Il n'est vraiment pas très bavard, cet homme-là. Cette prière n'est pas une conversation faite d'une valse de mots. C'est une prière qui traduit que Jésus est en communion avec le Père Céleste, qu'il a un rapport de foi, qu'il y a une sorte d'attachement mutuel, vous voyez, cette adhésion ferme, qui permet à Jésus d'être pleinement en phase avec l'espérance que Dieu désigne. La prière de Jésus consiste à accueillir la volonté de Dieu. C'est ce qui fera dire à Augustin que la prière consiste finalement à accueillir ce que Dieu nous donne. Ou plus exactement qu'il faut prier ce que Dieu veut. Prendre conscience de ce que Dieu nous révèle comme horizon de vie vers lequel nous pouvons nous rendre. Jésus est Christ parce que il avait cette conscience très affirmée de l'espérance de Dieu. Il a hésité un peu parfois aussi. Dans le jardin des Oliviers, il va même essayer de négocier un peu. Est-ce qu'il faut vraiment que je boive de cette coupe ? Mais il est vraiment Christ en ce sens qu'il ne perdra pas de vue ce lien de communion avec Dieu et qu'il dira « ta volonté » et non la mienne. Le verbe « rendre grâce », « eucharisteo », est une manière d'exprimer une gratitude. Le fait qu'on reconnaît que nous sommes au bénéfice d'une grâce, au bénéfice de bienfaits qui nous entourent. Et la prière consiste précisément à cela, un travail de discernement. La situation actuelle dans notre société française est passablement pénible. Le travail du chrétien est certainement de s'engager dans cette action politique qui rendra le monde infiniment plus vivable et notre société notamment. Mais le premier travail du chrétien, c'est de ne pas perdre pied et de continuer à prier pour pouvoir repérer les points d'appui, repérer les choses bonnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour avancer, et aussi les choses désirables que nous allons essayer de renforcer par notre action personnelle. Prier pour découvrir ce que Dieu nous prodigue, autrement dit, tous les aspects extrêmement vivables de notre vie, pour défendre ces aspects et ne pas céder à la tentation de répliquer à la violence par la violence, pour ne pas céder à la tentation d'être dans l'épreuve de force, d'être dans un rapport de force et conserver cette perspective qui était celle de Jésus. Rendre le bien pour le mal, ou ne pas répondre au mal par un mal supérieur, mais par le bien. La prière est donc un regard porté sur Dieu, un regard ouvert sur ce que Dieu nous prodigue pour que nous en fassions l'essentiel de notre vie, que nous ne cédions pas à quelques sirènes qui, inévitablement, provoqueraient notre naufrage. Prier, c'est l'art de débusquer Dieu dans notre vie. C'est l'art de débusquer Dieu dans notre quotidien. Et ça, c'est redoutablement difficile. Parce que ce n'est pas immédiatement visible, ce n'est pas immédiatement perceptible. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous plonger dans les textes bibliques et de nous mettre à l'école de ceux qui ont fait cette tentative de repérer Dieu dans l'histoire. Pour comprendre quels étaient les critères qu'ils ont utilisés pour découvrir Dieu dans leur histoire. Prenez tous ces textes où il y a des rencontres entre Dieu et des personnages bibliques et vous repérerez ce qu'il y a de divin dans l'existence. Alors évidemment, ces textes sont des récits mythologiques au sens où ils utilisent des personnages pour rendre visibles des aspects invisibles de notre vie. Dieu donne l'impression d'être un personnage comme vous et moi qui se promènerait, qui rencontrerait tantôt Moïse, tantôt Jacob. Mais prenons l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus nous montre qu'il est justement pétri de tous ces textes bibliques qui sont comme des lunettes correctrices, qui permettent de voir dans la situation d'une personne, non pas ce que la doxa de l'époque, non pas ce que les rumeurs en disaient, mais ce qu'il comprenait de l'être humain à travers les textes bibliques et qu'il repérait chez cette personne. C'est la raison pour laquelle Jésus transgresse beaucoup de barrières sociales ou religieuses ou même politiques, parce que son regard n'est pas éduqué par ce qu'en disent les autres, mais par ce que les textes bibliques disent de l'être humain. Voilà pourquoi prier consiste moins à bavarder avec Dieu qu'à faire ce travail de discernement et de relecture. Et la relecture, c'est le véritable sens étymologique de la religion. Non pas religarer, relier, ce qui est toujours sympathique, mais franchement, on n'a pas besoin de la religion pour être potes les uns avec les autres. Reléguerer, relire, reprendre, revisiter, observer, critiquer, analyser, discerner. Prendre le temps nécessaire pour prendre conscience de l'univers dans lequel nous évoluons, pour discerner les points d'appui, les zones à éviter, les lignes forces à renforcer justement. pour repérer ce qu'il y a d'infiniment désirable dans notre existence. Je vous fais un petit peu de happening, parce que, après tout, vous avez le droit d'être privilégié par rapport aux autres protestants de France, mais dans la conférence de Carême dans 15 jours, ça sera sur 1 Corinthiens 15. C'est quand Paul parle de la résurrection, de la vie et de la mort. Quelle est la spécificité du christianisme ? Ce n'est pas de croire en l'immortalité, ce n'est pas du tout notre affaire. C'est de considérer que la mort n'est pas notre centre de gravité, que ce qui doit animer notre vie, ce qui doit être un critère pour nos prises de décision, ce n'est pas la mort ou la peur de la mort, c'est la vie et l'amour de la vie. Non pas agir en fonction de nos peurs, de ce que nous craignons, de ce que nous refusons, agir en fonction de ce que nous voulons et de ce que nous désirons. L'Évangile, c'est ça. Ne pas construire une morale en fonction de ce que nous voulons éviter, mais construire une éthique en fonction de ce que nous voulons accomplir. La prière nous rend capables de cela. La prière consiste à métamorphoser notre morale en éthique. Notre vie est tellement compliquée. C'est un tel enchevêtrement de paramètres qu'il ne faut jamais lésiner sur ce travail de discernement qu'est la prière. Je reviens à notre Jésus et à notre Lazare. Jésus découvre dans sa relecture intérieure qui consiste à approfondir sa connaissance de l'être humain, Jésus redécouvre certainement à un moment donné que Dieu désigne ce qui exauce tout ce qui rend les gens libres. Peut-être a-t-il revisité le livre de l'Exode. Je suis persuadé que Jésus lisait la Bible. Si vous voulez être fidèle à Jésus, lisez la Bible. Je suis sûr qu'il l'a lisée, il a l'air de bien la connaître. Et parce qu'il redécouvre que Dieu désigne ce qui rend libre, c'est aussi ce qu'il souhaite pour Lazare. Et il libère Lazare de la mémoire dans laquelle ses sœurs l'avaient enfermé. Ainsi, Jésus parle à ses disciples de la religion en disant que la foi, c'est la confiance qu'on a dans la vision biblique de la vie. Alors, quand il est en train de parler du temple dans l'épisode de Marc, eh bien, il dit, voyez, ce temple-là, tel que je le vois, c'est qu'un figuier desséché. Il ne porte aucun fruit parce qu'il est enfermé dans une forme de ritualisme. Ah oui, les prières sont parfaites, elles sont belles, elles font frissonner peut-être même. On sent que c'est des bons théologiens qui ont fait ces prières, mais ça ne produit aucun fruit parce que ce ritualisme est tellement éloigné de ce travail personnel qui consiste à prendre la vie à bras-le-corps et à lui donner du sens. Voilà pourquoi prier change la vie. Prier change la vie, et l'heure aussi, des fois, deux fois par an. Parce que cela nous fait découvrir les ressources peut-être insoupçonnées que nous avons à notre disposition. Cela nous fait découvrir le sens que peuvent prendre nos actions, nos paroles, pour que l'ensemble de notre vie devienne cohérent et soit tendu vers ce que la Bible nomme le règne de Dieu. C'est en ce sens que la Bible n'est pas une causerie, que la prière n'est pas une causerie, mais une écoute de Dieu. Prier change la vie parce que cela nous fait découvrir que tout ne dépend pas de nous et que tout ne doit pas être vécu selon notre intuition personnelle. Nous sommes au bénéfice d'exaucements qui ne viennent pas de nous, dont nous ne sommes pas à l'origine, et qui sont pourtant décisifs pour que notre vie soit vraiment portée à son incandescence. Priez de grâce, que ce ne soit pas une sorte de verbiage, mais bien une action de grâce. Amen. Éric Satie avait tout compris. Prenons notre recueil de chants au cantique 427. Nous chanterons les trois strophes du cantique 427. Levons-nous pour chanter. Prenons place. Sur la feuille d'annonce, vous retrouverez les rendez-vous de la semaine. Par exemple, vendredi soir à 18h à la Margelle, une soirée consacrée à la situation au Liban. Vous avez tous les éléments sur la feuille. Le lendemain, ici même au Temple, à 10h, une rencontre organisée par la Fraternité œcuménique pour parler du sens du culte, enfin de l'office. Quelles sont les différentes étapes d'une liturgie? Pourquoi? À quoi ça sert? Vous êtes toujours demandé pourquoi le culte était comme ceci et pas autrement? Eh bien, vous saurez tout sur cela samedi à 10h avec un prêtre orthodoxe et un prêtre catholique en plus de moi. Comme ça, vous découvrez aussi la messe. De l'autre côté, il y a quelques éléments pour le temps de la semaine de Pâques, la semaine de Pâques qui s'organisera du 4 au 9 avril. Vous êtes sollicité, bien sûr, pour participer aux différents moments. Il y a le document, le fascicule qui est à votre disposition, le document rouge. Vous en prenez aujourd'hui et vous en distribuez autour de vous. C'est l'occasion, on ne sait jamais comment on peut être un petit peu ambassadeur de l'Église. Vous prenez des documents, vous les offrez à vos voisins dans quelques boîtes aux lettres. Voilà. Il y a deux sollicitations en particulier qui sont culinaires. Nous avons besoin de vos talents culinaires ou de vos bonnes adresses pour constituer un buffet le mardi soir entre la conférence de Céline Romer et puis une réinterprétation de jazz d'une passion de Johann Sebastian Bach par Gabriel, la fille d'Irène, Rondrian Jack. Et puis, jeudi, c'est le Jeudi Saint, avec le repas qui sera une commémoration du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et donc, nous vous proposons de vous inscrire auprès d'Hélène Walter. Hélène, si tu peux te lever, comme ça on te repère bien. Hélène Walter prend vos inscriptions au repas, et en même temps, elle prend la liste de ce que vous apporterez pour constituer ce repas, de manière à ce que ce soit à peu près équilibré. Pas forcément au niveau des vitamines, etc., mais entre le salé et le sucré. Voilà, donc pensez à lui indiquer tout cela. Il y a également une autre sollicitation que nous nous faisons. Elle concerne les besoins en termes de produits d'hygiène pour les personnes qui sont sans ressources. Nous collectons des produits d'hygiène, que ce soit du dentifrice, du savon, des serviettes hygiéniques, tout ce qui peut être utile pour cela. Ce sont les besoins qui sont les moins bien couverts actuellement. Et vous pouvez par exemple vous adresser à Joël. Bah, du coup, Joël, je vais lui proposer de se lever aussi. Voilà, il est tout au fond. Voilà. Vous pouvez, quand vous voyez Joël, lui donner les éléments ou le mettre dans l'urne qui est entre le sas et la porte en bois. Y a-t-il d'autres informations qu'il faudrait partager ? Alors, le moment est venu de recueillir votre offrande pour donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour ses missions. Voici le moment de célébrer ce repas que Jésus a institué et nous commençons par rendre grâce, justement. Oui, c'est pour nous bonheur et joie de te louer, Dieu notre Père, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils, il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit, il est devenu notre paix. Et c'est pour nous l'évangile de l'émerveillement. Que toi, Seigneur, tu sois notre Père. Que le Christ Jésus soit le pain vivant donné dans le monde. Et que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Amen. Frères et sœurs, chantons la première strophe du cantique 581. Ainsi, pendant ce dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Unissons-nous dans la prière. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son règne. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Alors, par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que nous puissions discerner les signes de la présence de ton Fils parmi nous à travers ce pain et ce vin. Fais toutes choses nouvelles dans notre cœur, dans le monde, de telle sorte que s'accomplisse l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous te disons en communion avec tous les membres de ton peuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chantons la deuxième strophe du cantique 581. Cantique 581, deuxième strophe. Frères et sœurs, nous sommes toutes et tous les bienvenus à la table du Seigneur, quelle que soit notre histoire personnelle, quel que soit le chemin qui nous a conduits jusque-là, quelle que soit notre disposition intérieure, quels que soient les mots agréables ou désagréables qu'on prononce sur nous, nous sommes toutes et tous les hôtes du Seigneur. Souvenons-nous que dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur précisément dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. « Si quelqu'un entend ma voix, dit-il, qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Voilà, frères et sœurs, la promesse qui est faite à chacun d'entre nous. Alors, formons une grande table fraternelle autour de ce temple. Venez, car tout est prêt. Les plateaux de verre qui circuleront ont des verres contenant du jus de raisin au centre, un peu plus clair que le vin qui est à l'extérieur. Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance répandu pour la multitude, pour le pardon de tous. Seigneur est avec toi. Seigneur est avec toi. Nous rendons grâce pour la simplicité de ce repas, pour la simplicité de la présence divine en Jésus-Christ. À nous qui avons la nourriture éternelle, donne-nous faim et soif de justice, de paix et d'amour. Accorde-nous de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, gagnons nos places et restons debout pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ne partez pas trop vite après le culte. Il y a derrière ces rideaux un verre fraternel qui vous attend. C'est l'occasion de faire un peu connaissance les uns avec les autres. Après tout, qu'est-ce qu'une église si ce n'est une communauté de gens qui n'ont rien à faire ensemble? Alors, prenons le temps pour faire connaissance car c'est la seule occasion que nous avons de connaître ces gens qu'on ne rencontrerait pas autrement. Frères et sœurs, ayons l'assurance que le Seigneur de la paix est avec chacun d'entre nous. Oui, le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps, en tout lieu et de toute manière. La grâce de notre Seigneur est avec nous tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen.